Je ne veux pas le rappeler parce que ça risque de me prendre l'heure entière. Enfin, je vais le rappeler en trois phrases. La signification du mot de Echad dans le verset, dans les trois lectures que nous avons à travers le Midrash, va nous être donnée comme signifiant un, c'est-à-dire le même. Il y a deux interlocuteurs. Celui qui parle s'adresse à un interlocuteur qui est censé se nommer Israël et affirme l'unité de la référence au même Dieu unique. Je reprends la lecture du contexte historique lui-même. Dans le livre de Devarim, c'est Moïse qui s'adresse avant sa mort à Israël pour leur rappeler sous forme d'exhortation d'avoir bien à intégrer ce dont ils ont eu expérience, mais cette expérience va se cacher. Vous vous rappelez de cela? La génération de la sortie d'Égypte est une génération privilégiée puisqu'elle a été la génération de la révélation. Et tout lui a été montré à l'avance et caché. Ça ne vous rappelle pas quelque chose qu'on a appris hier? Le fait que tout est montré à l'avance et ensuite est caché. C'était quoi? Sous une autre forme?
Oui.
Ah. Si j'avais pas assisté au cours, je n'aurais pas compris avec un mot comme ça. Explique-moi. Comment je vous ai dit ça? Ce principe hier d'une autre forme, sous une autre forme. Que tout est donné à l'avance. Et il faut le mériter à posteriori. Bon, ça se relie. Un événement de révélation, et j'essaierai de vous expliquer comment ça se passe dans les autres générations que celle de la sortie d'Égypte. C'est une intuition totale qui est donnée à l'avance, et ensuite il faut la récupérer par son mérite propre. Je veux dire, à l'échelle collective de l'histoire d'Israël, il y a eu un fait qui s'appelle le Mahamad Har Sinaï, ce qui s'est passé lorsqu'Israël s'est tenu devant le Sinaï à l'échelle collective et qui est irréversible, mais à l'échelle individuelle, chacun en son temps a au moins une fois dans sa vie un événement de cet ordre. Je peux que me borner à vous le décrire formellement et chacun l'expérimente à sa manière. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Si ça ne vous est pas déjà arrivé, je vous promets que ça vous arrivera parce que ça arrive. Il n'y a pas d'exception. Et qu'à un certain moment, on a une intuition que quelque chose se dévoile. Il y a un sens total. Et puis ça se cache. Est-ce que vous arrivez à diagnostiquer cela? Oui. Non. Bien. Et ça se cache, mais ça ne se cache pas complètement. Il y a une trace qui reste de cela. Et même si cette trace est le plus enfouie, occultée, comme on dit en français, elle est là. Et... Il suffit de trouver les moyens de la rendre disponible lorsque cela est nécessaire pour retrouver la confirmation de la conviction. Ça s'appelle l'étude. Mais dans la mémoire, il y a une expérience irréversible. Je vous ai déjà donné cette formule, réfléchissez-vous par vous-même. L'objectif de l'étude, c'est de transformer le contenu de mémoire en savoir. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Et on aura à revenir sur ce thème de la mémoire qui est très important pour la tradition de la Bible. Et vous aurez à rencontrer énormément de versets qui se servent de cette expression, c'est une autre interpellation, Zahor. Souviens-toi, ça veut dire n'oublie pas. Et parce qu'il s'est agi d'événements historiques, c'est-à-dire d'événements qui se sont passés dans l'histoire concrète, et si on les oublie, eh bien ils sont oubliés. On a parlé déjà de ce assez souvent. Donc vous ajoutez à Shema, Re, Zahor. Zahor, les trois lettres de racine, c'est Zayin, Kaf, Resh. Ça veut dire se souvenir. Puisque j'en parle, j'en donne une règle. Mais de tout cela, vous étudiez assez en détail, je pense, avec Yosef dans le cours du lundi soir. Okay. Le seul moyen de ne pas oublier, c'est de se souvenir. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un acte transitif, remémorisé, sinon on oublie. Bon, vous indexerez cela à l'analyse du terme de Zephyr. Bien. Alors, de quoi je parlais juste avant?
Transformer le contenu
en
savoir.
Non, mais pourquoi je vous ai parlé de ça?
Que tout est donné à l'avance, je pense que
oui, il s'agit d'une exhortation où celui qui parle s'adresse à Israël Et dans la lecture historique, Moïse s'adressant à Israël, c'est cette exhortation à ne pas oublier, puisqu'on a parlé de la dimension de la mémoire, ce dont il y a eu une fois expérience, l'unité des valeurs. Et nous aurons, à partir de là, souvent, à utiliser ce terme. L'unité des valeurs n'est pas vraisemblable ni au niveau de l'expérience empirique du monde dans lequel est le nôtre, ni au niveau de la raison. Vous rappelez de cela. C'est un objet de foi. Mais cet objet de foi a été un objet de connaissance de vérité dans un temps privilégié qui a été un temps de dévoilement. Le Aleph qui est caché derrière le Bet, vous vous rappelez, s'est dévoilé une fois. C'est clair ce que je dis là. Et il s'est d'ailleurs dévoilé aux trois niveaux de lecture. L'unité du peuple d'Israël, l'unité entre Israël comme disciple de Moïse et Israël comme descendant des patriarches, et l'unité de l'humanité entière autour d'Israël. Bien. Alors maintenant, nous allons aborder très rapidement, aujourd'hui, la quatrième lecture, celle qui concerne la liturgie, c'est-à-dire le rite du Kriyat Shema. Je vous distingue ces deux sortes de lectures. Les trois premières, c'est des lectures d'études de la Torah. Et nous l'avons lu au niveau du Pshat, c'est le chapitre 19 de l'Exode qui l'éclaire. Vous vous rappelez de cela ? Moïse s'adressant à Israël, au pied du Sinaï, pour lui dire quoi ? C'était le verset 6, si je me souviens. Vous vous rappelez de ce chapitre 19 ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une mémoire d'éléphant.
L'habilitation de
Moïse, oui. Oui, vous vous rappelez de cela ? C'est là que... Il y a d'autres passages qui nous montrent qu'il y a eu entre la génération de la sortie d'Égypte et Moïse une tension perpétuelle. Une chose qui est peu connue, je vous indique tout de suite, lorsqu'on n'est pas attentif au texte, on croit que Moïse a été relié à la génération de la sortie d'Égypte pendant les 40 ans au désert. Okay ? En réalité, si vous étudiez bien le texte, vous verrez que ce n'est pas le cas. Moïse n'est resté dans le camp des enfants d'Israël à la sortie d'Égypte que 2 ans et demi. Et ensuite, il s'est séparé d'eux. Jusqu'à la fin de cette génération, où il s'adresse aux enfants, à la génération des enfants, dans le Deutéronome, dans le 5e. Pendant tout ce temps-là, le peuple était dirigé par Josué. On étudiera pourquoi, à un certain moment, il y a un décalage tel entre Moïse et le peuple, que Moïse se sépare du peuple radicalement. Le peuple de la génération des pères. Okay, et il attend la génération des fils pour récapituler la Torah une deuxième fois dans le 5e du Pentateuque. Bon, je referme la parenthèse, mais le texte le plus direct concernant notre problème, c'est ce chapitre 19 de l'Exode, où on apprend une chose aussi qui n'est pas perçue toujours par trop de familiarité avec le texte, c'est que s'il y a eu l'événement du Sinaï, c'était beaucoup plus pour habiliter Moïse comme prophète de la loi que pour dire 10 parmi les commandements. Vous comprenez c'est-à-dire, si déjà il était nécessaire que Dieu se révèle comme caché, parce que les Hébreux, même de ce temps-là, n'étaient pas capables d'avoir la révélation face à face dont seul Moïse était capable. Vous vous rappelez du verset dans la nuée, dans l'opaque du nuage, vous vous rappelez de cela ? Bon. Alors si déjà Dieu se révèle, on va en profiter pour entendre les principes de toute la Torah dans les 10 commandements. Mais d'une certaine manière, c'est a posteriori. Parce que, vous rappelez au début du chapitre 19, l'essentiel de la révélation était la phrase Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Vous vous rappelez de cela ? L'essentiel du message que Moïse a donné à Israël au rendez-vous du Sinaï, c'était de dire « Et vous serez pour moi un peuple de prêtres et une nation sainte. » Un point. Si vous savez ce que c'est, vous êtes Israël, vous ne savez pas si vous n'êtes pas Israël. Bon, c'est moi qui explique comme ça. J'essaie de vous donner un exemple. C'est-à-dire, à partir du moment où ce peuple d'Israël a vécu l'expérience de l'histoire de l'humanité telle qu'il a vécu, et telle que la Torah la raconte jusqu'à la sortie d'Égypte, tout le livre de Bereshit, depuis le premier homme jusqu'à la sortie d'Égypte, à travers l'histoire des patriarches, et c'est pourquoi d'ailleurs la Torah nous donne ce récit en préface à la loi, Israël aurait dû être censé, à un niveau très idéal, savoir par lui-même ce que c'est que cette Torah d'un peuple de prêtres. Mais nous n'étions pas à ce niveau-là, seul Moïse l'était. Alors il a fallu aussi qu'on nous donne le code. Mais normalement, bon, j'ai ouvert une parenthèse, mais puisque j'y suis enlevé, normalement il aurait suffi de dire cela, toute la Torah en un verset. Pourquoi ? Parce que, vous vous rappelez de cette équation que nous avons vue les derniers cours, la Torah concerne ceux qui sont sortis d'Égypte. Ceux qui ont vraiment vécu l'expérience Galout, Géoula, savent quelle est la Torah du Dieu qui leur parle. C'est clair ? C'est-à-dire, ce à quoi il faut s'attendre, je veux dire, ce à quoi il ne fallait pas s'attendre, c'est qu'une Torah explicite, un code, soit révélé. Il suffisait de donner la consigne du projet d'identité. Je vais donner un exemple pour que ça soit plus clair. Je sens bien que c'est paradoxal ce que je vous dis là. Okay, il faut toujours, d'ailleurs je me le dis souvent, s'étonner, se dépayser pour comprendre ce qu'il y a dans la Bible. Et je suis en train de vous dire une chose énorme. D'après la Bible n'aurait jamais dû être révélée. Vous avez compris ce que je veux dire ? Pourquoi ? Je vais donner un exemple que je donne souvent, peut-être on peut le modifier. Imaginez qu'on ait besoin d'un corps de pompiers. Il y a le feu, il faut des pompiers. Bon, l'état de l'humanité est tel qu'il fallait Israël. Vous voyez l'image, okay ? Et alors, si je dois dire aux pompiers, premièrement, sache que le feu, ça brûle. Deuxièmement, et pour l'éteindre, il faut de l'eau, c'est pas un pompier que je parle. Vous voyez, c'est clair ? Vous avez compris, okay ? Et nous aurons d'ailleurs à utiliser ce principe pour un certain nombre de problèmes que vous verrez en fin d'année, où on peut s'étonner que tel ou tel enseignement important pour la tradition juive semble ne pas être écrit dans la Torah. Et là, on apprendra que précisément, il ne faut pas que ça soit écrit, parce que si c'était écrit, cette Torah ne nous concernerait pas. Par exemple, je vous donne tout de suite un exemple. On se pose la question, pourquoi il n'y a pas d'allusion dans la Torah écrite, dans la Torah Shebirtav, à la résurrection des morts, au monde à venir, à toutes ces choses de la foi profonde, okay, apparemment aucune allusion. Si c'est nécessaire, on montre que c'est impliqué. Mais en principe, je ne dois pas être dans la situation de celui à qui on a à dire cela. Sinon, ce n'était pas à moi que la Torah devait parler. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? C'est les goïms qui ont besoin qu'Israël leur explique ces choses-là. Mais s'il fallait les expliquer à Israël, c'est qu'Israël n'est pas Israël. Les pompiers ne seraient pas les pompiers. Vous avez compris l'image ? C'est bien clair, hein, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu. Et pour reprendre cette formule, par exemple, par rapport à la clause de le monde à venir, ça, on n'a encore pas parlé tout ce premier trimestre, on ne parle que de ce monde-ci pour le moment, eh bien, la Torah ne s'adresse qu'à ceux qui vont par eux-mêmes au monde à venir. Si elle avait leur dire, tu sais, premièrement, il y a un monde à venir et voilà comment il y va, c'est pas à Israël, c'est pas, bon, vous avez compris, c'est pas à ceux à qui elle s'adresse qu'elle devrait s'adresser. Est-ce que c'est clair ? Vous avez compris ? Tout le monde avait compris ?
Non.
C'est-à-dire, on est rassuré qu'il n'y a pas de théologie dans la Torah. Parce que le Dieu dont la Torah parle, c'est pas un fondateur de religion, ça on va laisser ça aux chrétiens, c'est le créateur des mondes, ça n'a rien à voir. A priori, ça n'a rien à voir. Alors, ceci dit, puisque c'est nécessaire, entre-temps, il se fait aussi professeur de religion. Vous avez compris le problème ? Je vais vous donner un autre exemple, je retiens ta question. Enfin, on parle un peu à bâton rompu dans cette parenthèse. Je reprends cette formule pour qu'elle soit bien claire. Ce qui est rassurant dans le texte de la Torah, c'est qu'on ne nous parle pas d'un Dieu qui est fondateur de religion. C'est bien compris ? Dès qu'on rentre dans les récits des évangiles, on est en plein paganisme. Le Dieu dont on parle, c'est un théologien. C'est pas sérieux. Vous avez compris ce que je veux dire ? Et le Dieu de la Bible, c'est le créateur du monde. Bon, je vous donne une image. Il y aurait une lecture christianisante de la Bible juive qui consisterait, c'est vraiment une image, mais c'est pour éclairer le problème, à supposer que Dieu a voulu créer une synagogue et a mis un monde autour. C'est clair ? Alors que c'est exactement l'inverse. Dieu a créé le monde, et dans le monde, il y a des synagogues. C'est important. Mais c'est une autre lecture, c'est une autre approche, radicale. La première mène en Eretz Israël et la deuxième à Brooklyn. Vous avez compris la différence. Ou à Sarcelles. Bien, on fait un trifouillis les autres. C'est clair jusque-là ? Donc, qu'est-ce que tu veux dire ?
Dans l'introduction du Père Gavot, on dit qu'Israël est Chalek. Yeshlaem
Chalek Laolam.
Yeshlaem Chalek Laolam. Est-ce que
l'Israël
a droit au futur ?
Oui. Il n'y a pas écrit à droit.
Israël,
il n'y a pas écrit à droit. Il y a écrit Chélek, ce n'est pas droit. Mais je vais parler de ça tout à l'heure dans le cours. C'est une création. Mais rappelle-toi ta question.
Dans l'introduction du Père Gavot, on dit
Bon, alors de quoi je parlais dans cette parenthèse, avant de la fermer, la parenthèse. Bon, je parlais de ce principe que... Oui, et je vous donne un exemple. Arrivé au Sinaï, il suffisait qu'Israël entende le projet de son histoire. Ve'atem, ce verset vous l'apprendrez par cœur, Ve'atem, Tiouli, Mamlechet, Kohanim, Vegoy, Kadosh, Ele Adevarim, Asher, Diber, Asher. Et vous, vous serez pour moi une royauté de prêtres, ça veut dire les guides des autres nations, et une nation sainte quant à vous. Voici les paroles que Dieu m'a chargé de vous transmettre. Un point. Vous vous rappelez de cela ? À ce moment-là, le peuple dit que Dieu nous le dise lui-même. Vous vous rappelez aussi ? Alors c'est là que Dieu dit à Moïse, puisqu'il en est ainsi, je vais me révéler à toi de telle sorte qu'ils m'entendent te parler, et qu'en toi aussi ils aient foi à jamais. Vous avez là la racine, vous rappelez du texte, la racine de notre problème, la tension entre ces deux unités de lecture, Dieu d'Israël, Dieu de Moïse. Ça va jusque là ? Alors j'en ai profité dans ce rappel pour vous indiquer cela. Je vais vous donner un exemple que vous étudierez dans la Gada de Pessah. Pour ceux qui sont un peu familiers à la Gada de Pessah, vous savez ce que c'est que la Gada de Pessah ? Bon. C'est le récit, non, le rite de Pessah de la sortie d'Égypte, de toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Et il y a, vers la fin, une sorte de psaume, si vous voulez, mettez psaume entre guillemets, c'est pas un psaume vraiment, mais quelque chose du même ordre, qui a un refrain d'Ayenu. Vous rappelez-vous ? Si Dieu a fait ça pour nous, et ça nous aurait suffi. Mais non seulement il a fait ça, mais il a fait plus. Et puis il y a 26 degrés, si je me souviens. Et alors, à un certain moment, il y a la phrase suivante. « Ilu kerevanu lifne har Sinai, velo natan lanu et la Torah d'Aïe. » C'est inouï, c'est notre sujet. Okay? « S'il nous avait amené, approché du Sinaï, et ne nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait dû nous suffire. » Vous avez compris ? Comment on peut dire une chose pareille ? Qu'est-ce qu'on va faire au Sinaï si ce n'est pas pour recevoir la Torah ? Alors, c'est clair ? Alors, ça vous éclaire ce qu'on a appris maintenant et réciproquement. Ce qu'on a appris éclaire cette phrase. C'est-à-dire, il aurait suffi que nous soyons arrivés à ce rendez-vous qui a en conséquence d'une expérience historique particulière, l'histoire d'Israël depuis le premier homme, nous mène au niveau du projet d'identité pour Israël, pour l'histoire à venir, entre la sortie d'Égypte et le temps messianique, et si nous ne savions pas par nous-mêmes quel est le code de ce projet, c'est que ce n'est pas nous. Vous avez compris ce que je veux dire ? Est-ce que c'est clair ? Bon, comme on n'était pas à la hauteur, c'est le cas de le dire, tout le peuple était étagé sur la montagne, en haut il y avait Moïse, et puis un peu plus bas il y avait Aaron, chacun à son niveau. On n'était pas à la hauteur, alors on nous a révélé aussi le mode d'emploi. Vous avez compris ? Reprenons l'image du pompier. C'est-à-dire, tu seras pompier, ah oui, mais je sais bien que tu ne sais pas très bien être pompier. Alors voilà le code du pompier. L'eau, ça brûle, le feu, ça brûle, et l'eau, ça éteint le feu. Vous avez compris le problème ? Ça va ?
Est-ce que ça veut dire que si les Hébreux étaient arrivés au Sinaï, ils n'avaient pas reçu la Torah, et qu'ils étaient un peuple capable de cela, ils auraient pu utiliser... un autre moyen ?
Non, c'est ce moyen-là, mais... Non, c'est ce moyen-là. Il n'y a pas deux vérités. C'est ce moyen-là, mais ils n'auraient pas eu besoin d'aller à l'école. Il y a des écoles pour les pompiers, mais c'est paradoxal qu'il faille des écoles pour les pompiers. Vous ne croyez pas ça ? C'est pas difficile. Et finalement, la Torah n'a été donnée qu'au peuple qui était censé capable de la connaître par lui-même. Alors elle lui a été donnée. Vous comprenez la tension entre ces deux niveaux. Et finalement, celle-là nous mènerait trop loin. Je reviens sur le principe. Ça veut dire qu'Israël est censé être celui qui devrait être capable de réinventer par lui-même ce que Dieu a lui dire, sinon il ne peut pas le comprendre. Pourquoi la Torah dit, encore une fois, « parle aux enfants d'Israël » ? Eh bien, parce que les autres ne sont pas dans le coup, si j'ose dire. Et alors Israël est chargé de leur communiquer, oui, ça, vous rappelez Moïse traduisant dans n'importe quelle langue, vous rappelez de cela, ok ? Mais ça signifie donc que Dieu ne s'adresse qu'à celui qui, en principe, devrait être capable de savoir par lui-même, à l'avance, ce que Dieu a à lui dire.
Ça rejoint l'idée de l'Église.
Pardon,
l'idée du
oui, j'aime pas. Enfin, il faut pas employer cette expression en français parce qu'elle a, elle est catastrophique. Elle a véhiculé trop d'antisémitisme. Okay. C'est un peuple élu au niveau des devoirs. Si des gens pouvaient dire un peuple élu. D'ailleurs, je me souviens d'une formule de André Chouraki qui disait ce pauvre peuple élu, il a été souvent en ballotage, balloté. C'est pas gratuit cette élection, c'est ça ce que je veux dire. C'est pas à n'importe qui que Dieu s'est adressé pour dire voilà ma peur. Mais ce que j'ajoute aujourd'hui, c'est important, réfléchissez-y par vous-même. Il y a, et c'est la dimension de la Torah chez Baal Peh, okay, la capacité d'Israël de savoir de quoi Dieu parle. Eh bien, en principe, il devrait le savoir à l'avance. On nous a aidés en nous donnant des livres. Vous avez compris le problème. Mais à quel niveau ça se passe? Bien sûr, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Alors, on va redescendre de la montagne. Qu'est-ce que tu veux dire?
Avec David au début de l'année,
oui,
les différents sens du mot Torah. Et l'un d'entre eux, c'était la sagesse d'Israël. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que sans la révélation du Torah.
Et je modifierai avec un mot, l'idée est exacte, la sagesse des sages d'Israël. Vous n'allez pas prendre n'importe quel juif et lui demander que c'est la Torah. Que...
Non, c'est...
non, c'est clair ce que je dis.
Ça veut dire que s'ils avaient eu cette Torah-là, qu'elle aurait besoin d'une Torah.
Mais c'est la même. Seulement, ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'ils auraient dû la connaître par eux-mêmes. C'est clair? Non, c'est pas clair. Vous avez l'air écrasé par cette révélation-là. Parce qu'il faut savoir que, comment dire... dans un ensemble humain, il y a tous les niveaux. Alors il y en a un qui était capable de comprendre ce que Dieu lui disait, c'est Moïse. Et c'est pourquoi il a été le porte-parole. Mais l'importance de Moïse, c'est Israël. S'il n'y avait pas eu Israël, si Dieu ne voulait pas s'adresser à Israël, on n'aurait jamais eu l'histoire de Moïse. Vous comprenez? D'ailleurs, la réussite de la fonction de Moïse, c'est quand on n'a plus besoin de lui. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Et c'est important, parce que sinon on risque de fonder une idolâtrie dont l'idole serait Moïse. Vous avez compris le problème. C'est une fonction très difficile. Parce que sans Moïse, il n'y a pas de révélation. Mais pour que la révélation soit authentique, il faut que Moïse soit transparent, qu'il n'y ait pas d'équation personnelle de Moïse. Ça veut dire que tout se passe comme si, c'est directement qu'on l'entend. Vous avez compris le problème. Bon, ça implique énormément de comportements psychologiques, sociologiques, historiques. Mais pour revenir à l'essentiel, ce que je voulais dire, c'est cela. C'est que c'est parce qu'il était nécessaire d'habiliter Moïse en tant que prophète de la loi, alors qu'il était déjà habilité en tant que chef de l'histoire. Vous vous rappelez de ces deux donnez-moi un livre de Shemou, je vais vous donner deux versets que vous comparerez et que vous étudierez, qu'il y a eu la révélation des 10 commandements. Mais en principe... je vais raconter l'enseignement du Gaon de Vilna. Ça, vous pouvez rattacher ça avec l'ensemble du cours de bibliographie. Le Gaon de Vilna dit toute la Torah chez Baal Peh est dans la Torah chez Birtav. Toute la Torah chez Birtav est dans le Chumash. Tout le Chumash est dans le livre de Bereshit. Tout le livre de Bereshit est dans la Parasha de Bereshit. Toute la Parasha de Bereshit est dans le premier verset de Bereshit. Tout le premier verset de Bereshit est dans le premier mot de Bereshit. Et tout le premier mot de Bereshit est dans la première lettre. Vous connaissez ça? C'est moi qui vous l'ai dit, non? Oui. Alors, si je comprends la lettre Bet, je connais toute la Torah. Bon, mais c'est pas une Agada, c'est pas une légende. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, vous avez appris aussi qu'est-ce que ça veut dire? Alors, faites un petit exercice. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est pas n'importe qui a raconté ça. Le Gaon de Vilna, c'est un géant. Il ne s'amuse pas aux billes. Il ne joue pas aux billes. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Que si je comprends la lettre bête, alors je comprends tout ça.
La dualité? On avait parlé de
la dualité, oui. Entre quoi et quoi?
On avait parlé de cela à propos de Aleph.
Oui, oui, la dualité. La dualité, c'est juste. Bête, ça indique la dualité. La dualité entre quoi et quoi?
De la réalité, de la vérité.
Non, 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 c'est pas. C'est, d'ailleurs, on n'avait pas parlé comme ça. Cette dualité existe, okay, et elle est impliquée par ce bête aussi. Mais, premièrement.
Mais apparemment du monde.
Non, tu dis la même chose.
Entre le monde et la
séduction. Ça revient à ce que vous dites là.
Mais la dame à la quoi?
Ah, et alors dis-moi ça plus clairement. Par rapport au terme même du premier verset. Voilà, la dualité, non. La dualité entre le Créateur et la créature. Et la Torah, c'est la loi des liens entre le Créateur et la créature. C'est comment il faut, comment se comporter pour la créature pour qu'elle mérite sa création. C'est clair ? On peut le voir d'autres manières, mais enfin l'idée essentielle est là. Bon, alors il n'y a que des quel mot employer ? Personne, c'est plus que des personnes. Il n'y a que des ishiyut, des personnalités de très grande envergure qui sont à ce niveau-là. Donc, il était nécessaire que cela soit explicité pour le peuple. Mais qui explicite pour le peuple ? Eh bien, Moïse et les prophètes. Par conséquent, il fallait habiliter Moïse et les prophètes. C'est clair ? Bon, alors je vous donne ces deux versets, maintenant, pour que vous précisez bien cela. Au moment de la sortie d'Égypte, plus exactement au moment du passage de la mer Rouge, nous avons un premier verset que je vais vous donner, et qui montre que le peuple, la partie du peuple qui est sortie d'Égypte, a eu foi en Moïse. Mais en tant que quoi, Moïse ? En tant que le chef de l'histoire, le chef politique, qui a accompli les promesses au patriarche. Enfin, c'est pas lui qui les a accomplis, enfin, grâce à lui, grâce à qui, à travers qui se sont accomplies les promesses au patriarche. Et alors, ici, nous avons, dans le chapitre 19, un deuxième verset, où il est nécessaire qu'il y ait aussi foi en Moïse donnant la loi. C'est clair jusque-là ? Je vous avais dit, sans l'expliquer, qu'il y avait un cas particulier, le cas particulier de la tribu de Lévi. Vous vous rappelez de cela ? Bien, la tribu de Lévi, elle, était à la hauteur. Et c'est pourquoi elle n'a pas fait partie de l'exil. Ils étaient en Égypte, mais à la cour du roi. Et ils n'étaient pas dans le ghetto. Et c'est pourquoi il va s'avérer que de toute la génération, les 12 tribus de la sortie d'Égypte, ce sont les seuls qui resteront fidèles vraiment parce qu'ils savent de quoi il s'agit déjà. C'est clair ? Donc retenez bien ceci, la tribu de Lévi est un cas particulier. Alors le premier verset, c'est donc dans la paracha de Béchalar. Je vous donne ça tout de suite. C'est le verset 31 du chapitre 14. Notez la référence, ne cherchez pas maintenant, ça va prendre du temps. Notez la référence et vous comparerez les deux versets. Donc, c'est le chapitre 31 verset 31 du chapitre 14, au moment du passage de la mer Rouge. Vayar Israël et Tayad Agadola, et Israël vit. Vous voyez, vit. C'est pas qu'il a entendu parler, c'est pas que quelqu'un est venu leur dire que quelqu'un d'autre avait vu. Eux, bon, Vayar Israël. Témoignage direct, vous vous rappelez ? Et Israël vit. Yad HaGedola, la grande main, littéralement, Asher Asa Hashem b'Mitzrayim, que Dieu a agi contre l'Égypte, Vayiru Aram et Hashem, et ils ont respecté, avoir crainte d'eux, Hashem, Vayahaminu, et ils ont eu foi, Bashem, ou Moshe Abdo, en Hashem et Moïse son serviteur. Moïse son serviteur, c'est le chef politique, c'est clair ? Et alors voilà qu'au Sinaï, Moïse son serviteur, le Moshe Abed Hashem, dans lequel ils avaient déjà foi en tant que tel, dans le profil du chef politique, leur dit, il y a une Torah. Qu'est-ce que c'est cette Torah ? Et vous serez pour moi le peuple de prêtre. Il y a une mission. Alors là, ils demandent, et bien, ça on n'a jamais entendu parler, sauf la tribu de Lévi. À qui ça appartient ? Ton livre ? Et, sauf la tribu de Lévi, rappelez-vous bien cela. Et donc, il est nécessaire d'habiliter Moïse pour que le peuple ait aussi foi en Moïse. Alors, c'est le chapitre 19, verset 9. Bahavur Ishmaharam Bedabei Imach, afin que le peuple écoute pendant que je te parle. M'écoute te parlant, des gambecha yaminu leolam, et que même en toi, et que même à toi, ils aient foi à jamais. Alors le Midrash va expliquer le mot de gam, même en toi. Dans le chat c'est clair, pas seulement moi, mais toi aussi. Okay? Mais il aurait suffi de dire, et qu'à toi, ils aient foi, en toi, ils aient foi. Puisque c'est ça qui était en question. C'est-à-dire, ce que le peuple avait dit la première fois, c'était de dire, tout ce que Dieu dira, nous ferons, ça sous-entend. Ils l'ont pas dit comme ça, mais ça sous-entend, et pas ce que toi, Moïse, tu viens de nous dire là, c'est étrange. Okay? on n'a pas entendu parler de ça. Alors le Midrash explique, même en toi, ça veut dire pas seulement en toi, mais en ceux qui seront comme toi, c'est-à-dire les prophètes. Et en fin de compte, après l'époque des prophètes, il s'agit des Talmidei Chachamim. C'est clair. Bon, je referme cette parenthèse. Ça y est, c'est clair. Alors, ces trois lectures que nous avons eues, on les a vues très succinctement. Simplement, je vous rappelle, dans la première, c'est les enfants de Jacob parlant à leur père. La deuxième, c'est Moïse parlant à Israël. La troisième, à la fin des temps, c'est les Goïm s'adressant à Israël. Mais chacune de ces lectures a un monde d'études pour lui-même. Je les ai simplement situées. Alors maintenant, on aborde la quatrième. Qu'est-ce qui se passe au niveau du rite? Qui dit à qui, écoute Israël, Hachem Elokeinu, c'est le monde. Attends, il me semble qu'il manque quelqu'un. Attends, où tu es assis, toi, d'habitude?
Voilà.
Oui, et qui était là, d'habitude?
Bernard.
Non, Bernard était là.
Laurence.
Ah oui, et où elle est? Hein? Personne n'est au courant? Bon, rappelez-moi la fin du cours. Comme ça, vous perdez quelqu'un en route et ça ne vous frappe pas. Hein? Vous l'avez vu ce matin?
Oui, ce matin.
Bon. Bon, ça va. J'espère que c'est pas grave. Alors, la quatrième lecture que nous abordons, c'est au moment du rite, qui s'adresse à qui? Vous voyez là-bas? Qui s'adresse à qui pour dire Shema Israël? C'est clair le problème. Alors, nous avons un premier niveau qui est facile à comprendre, qui est important pour nous-mêmes. Si le rite se fait en communauté, on peut expliquer que chacun s'adresse à la communauté pour affirmer l'unité de foi. C'est clair? Bon. Mais nous savons que le rite du Kriyat Shema peut se faire aussi quand on est tout seul. Alors, si je suis tout seul à dire cette phrase, à qui je m'adresse? Il ne s'agit pas simplement de citer un verset de la Bible avec le sens qu'il a en tant que Talmud Torah. Il s'agit du rite. Il s'agit vraiment d'une situation de dialogue, enfin d'interpellation. Je parle à quelqu'un. Alors, nous allons avoir une première réponse au niveau de cette quatrième lecture. Il y en a une cinquième, mais je ne sais pas si on aura le temps de l'avoir encore aujourd'hui. Et puis, il y a tellement d'autres sujets à voir. C'est ceci. C'est que vous allez prendre le principe suivant. Nous avons déjà suffisamment de familiarité, en tout cas pour notre problème, avec le récit historique de la Torah, en préface à la loi. À partir du premier homme se déploie un certain nombre de lignées. En fin de compte, une de ces lignées arrive à être Israël. Comment ça se passe? À travers Chet, le troisième fils de Adam, dans la lignée de Shem après Noach, dans la famille d'Abraham, se produit en gros plan dans le récit biblique une sélection d'identité que le texte nous fait suivre à la loupe, d'Abraham Isaac, de Isaac Jacob, Jacob devient Israël. Donc, à travers une des lignées, l'identité de l'homme depuis le premier homme est devenue Israël. C'est clair ? Les autres sont devenus d'autres manières d'être homme. Ça, c'est le récit déployé. C'est le récit objectif, je veux dire, concernant l'humanité où chaque individu est extérieur l'un à l'autre, où chaque lignée sont extérieures l'une à l'autre. Bon, le Zohar va nous faire relire cette histoire concernant chaque individu humain. C'est-à-dire, chaque individu de l'humanité, c'est lui-même un Adam où il se passe tout ça. C'est clair? Ça veut dire, ce que nous apprenons dans le récit objectif comme étant l'histoire de lignées extérieures l'une à l'autre, l'idée est claire, okay? Eh bien, ça se passe dans chaque individu sous forme de tendance. Et nous avons des couches de la conscience, des couches de notre personnalité. La première couche la plus profonde, c'est Adam. Et en cela, nous sommes tous des Béné Adam. À partir de là, nous sommes soit Caïn, soit Abel. En réalité, toujours des dosages très, très, très nuancés, mais plutôt ça que ça. Et puis, en fin de compte, plutôt Chet. Et puis, plutôt Noir. Et puis, à partir de Noir, plutôt Yafet, plutôt, c'est clair? Plutôt Ham, plutôt Shem. Plutôt, c'est Pluton, mais enfin, laissez-le côté celui-là. Et à partir de Shem, pas n'importe quelle lignée des Shémitiques, plutôt Abraham. Et à partir d'Abraham, pas Lot, non, Abraham, déroulé. Et à partir d'Abraham, pas Ishmael, Yitzhak. À partir d'Yitzhak, pas... Vous avez compris? Alors, il y a des hommes en qui cette histoire a fait qu'ils ont... Le vocabulaire que j'emploie, c'est un vocabulaire d'explication. Hein. Ne nous accrochez pas trop aux mots. Mais il y a des hommes qui ont préféré faire que le point central de leur identité soit le point Israël. Les hommes sont récessifs. Vous connaissez le sens du mot récessif ? En biologie, vous savez ce que c'est ? J'emploie un vocabulaire qui ne fait pas partie du problème, mais que j'emprunte à la biologie, en ce qui concerne le phénomène de l'hérédité. Alors, si on admet qu'il y a des caractères qui passent par hérédité, alors on admet aussi qu'ils sont de deux sortes, des caractères dominants et des caractères récessifs. C'est-à-dire, les caractères dominants, c'est ceux qui se dévoilent, les caractères récessifs, c'est ceux qui sont occultés, mis en réserve, cachés, en impasse. C'est clair ? Alors, vous avez compris, qui sont les hommes qu'on appellera Bnei Israël ? C'est les Bnei Adam qui, en fin de compte, ont choisi que le centre de leur identité soit l'identité Israël et non pas telle ou telle autre manière d'être homme dont parle lui. Qui c'est par exemple Ishmael ? C'est un Ben Adam qui a choisi que le centre de son identité soit Ishmael et il assassine en lui la tendance Isaac. Vous avez compris le problème ? C'est bien clair comme tout. Bon. C'est-à-dire le principe n'est pas compliqué, ce qu'il faut c'est reprendre toute l'étude du récit à ce niveau-là. Et c'est une science pour elle-même qui se trouve dans le Midrash. C'est bien compris. Okay. Toutes ces manières d'être sont dans chaque individu sous forme de tendance, plus ou moins dévoilées, plus ou moins cachées, plus ou moins explicites, plus ou moins conscientes, plus ou moins inconscientes. Alors, qui est Israël ? C'est un homme qui a choisi que le centre, ça s'appelle en hébreu le tzipor nefesh, l'oiseau de la personne, tzipor nefesh. Vous connaissez cette expression, tzipor nefesh ? Que le centre profond de son propre sujet soit le point Israël. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des tendances aux autres manières d'être, mais précisément c'est un monde qu'il doit maîtriser de telle sorte de pouvoir être Israël. C'est clair ? C'est-à-dire nous avons en nous tous ces conflits dont la Torah a parlé entre des lignées extérieures l'une à l'autre. Nous avons en nous le conflit Caïn Abel, nous avons en nous le conflit Abraham Lot. C'est clair ? Alors qui c'est Lot ? C'est un Ben Adam qui a préféré être Lot plutôt qu'Abraham à ce stade-là de la bifurcation. Etc. Vous avez compris quoi ? Il y a donc en chaque Ben Israël un point d'identité qui est Israël. Et c'est à lui qu'on s'adresse en disant Shema Israël, à l'Israël qui est en moi, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Ça veut dire Hachem Elokei Israël est déjà authentique. Moi je suis en question. Je parle entre moi et moi. Un moi qui est déjà Israël. Et un moi qui est dans l'existence et qui n'est pas encore, alors j'atteste que c'est quand même... Ça y est, c'est clair l'idée ? J'ai bien compris cela ? Bon, c'est donc la kavana au niveau du rite. Je m'adresse à moi-même. Et qu'est-ce que ça veut dire moi-même ? Ce qui en moi est déjà Israël. Et ça peut être parfois très enfoui, très indélébile. Mais en fin de compte, l'objet de l'étude, vous rappelez, c'est de faire passer ça à la conscience. Ça y est, c'est clair ? Tout le monde a bien compris cela ? Bon. Alors... En termes traditionnels, et c'est là que j'arrive à ta question, ça veut dire que dans le nefesh de chaque Ben Israël, et le mot de nefesh, je ne traduis, mais je ne veux pas traduire nefesh par âme. Âme, ça se dit neshama. Mais Nefesh, c'est la personne qui apparaît dans l'union d'une âme et d'un corps. Retenez bien cette notion. D'ailleurs, je ne vais pas terminer le cours sans vous donner tous les sens du mot de Nefesh. Et c'est, après beaucoup d'études, que vous arriverez en hébreu à distinguer les différents sens de ces notions spirituelles. Le Nefesh, le Ruach, la Neshama.
Si, par un mot,
pas
par un seul mot,
la personne. En mettant dans le mot de personne la dignité du fait que chaque personne est un sujet, le nefesh de chacun, celui que je suis. Mais rappelez-moi, je vous donne le sens du mot nefesh, mais je vais prendre ce sens-là pour l'analyse que nous allons avoir. Alors, dans mon nefesh, il y a un chélek, une part. Chélek signifie une partie et une part. Chélek qui est déjà Israël. Et c'est à ce chélek de mon nefesh que je m'adresse pour dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est Vous avez compris donc ce qui se passe dans le comportement spirituel de ce rite. Moi, le moi dévoilé de moi, qui s'exprime dans le monde extérieur, est en question d'unité. Et je m'adresse à la partie en moi qui a déjà intégré cette unité pour affirmer l'unité. Ça va jusque-là ? Alors, il y a une Mishnah, je reviens à ta question, il y a une Mishnah qui n'est pas dans le Pirkei Avot, qu'on cite en introduction de la lecture du Pirkei Avot, mais qui se trouve dans la Maseret Sanhedrin, et qui dit ceci, « Kol Israël », je vous la mets au tableau, puisqu'il a posé la question, « Kol Israël, Yeshael, Frelek, La'olam. » Les voyelles, c'est pas la peine. Bon. Kol Israël, tout Israël. Yeshlahem, il y a à eux, Chelek, une part, là, Olam Haba, au monde à venir. Il n'y a pas écrit, première chose qu'on a dit, il n'y a pas écrit Bar Olam Haba. S'il y avait Bar Olam Haba, ça voudrait dire tout Israël a une part dans le monde à venir, c'est déjà prêt. Bien. C'est clair? Il n'y a pas écrit Bar Olam Haba, mais là, Olam Haba. Vous en voyez? Et déjà ce qu'on apprend de cela, c'est que tout Israël a une part. On n'a pas dit que c'est la même. Chacun au niveau de son mérite. Il y a une. Ça ne veut pas dire que c'est la même. C'est important de le savoir pour des tas de raisons, parce que dans la tradition juive, le souci pour la permanence du moi, c'est la permanence du moi de façon spécifique, et non pas que le moi tel qu'il est avec sa mémoire et son existence se dissolve dans une égalité théorique et abstraite du tout, du n'importe quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Le salut qui est recherché, c'est le salut de la personne que je suis. Si j'ai le monde à venir, mais c'est plus moi, alors ça m'intéresse pas. Vous avez compris le problème ? Donc, chacun sa part. Et chacun doit mériter sa part. D'ailleurs, on ne peut pas mériter ni plus ni moins que sa part. Et vous avez une autre Mishnah qui dit... De qui on dira qu'il est riche, de celui qui est réjoui dans sa part. Sameach bechelko, celui qui se réjouit de sa part. Ça ne veut pas dire que c'est pas du tout une invitation à la cesse de pauvreté. Okay? Même un riche peut être vraiment riche s'il est réjoui de ce qu'il a. Vous savez qu'en général, les riches sont malheureux. Oui? Parce que plus ils sont riches, plus ils veulent l'avoir. Ils veulent que les autres aient moins. Ça ne veut pas dire que c'est une invitation à la cesse de pauvreté. Mais ça veut dire que de qui on peut dire vraiment qu'il est riche, quelle que soit sa part, il est heureux de sa part. Pour sa part. Qu'est-ce que vous voulez dire ici?
Donc, moi, je voulais dire.
Alors,
j'ai pas bien
mais rapidement.
Oui, j'ai pas bien compris quelle est la part dans le monde à venir, puisqu'on a dit déjà que la Neshama revient dans notre vie éventuellement jusqu'à ce qu'elle aboutisse à quelque chose de bien.
Qu'elle aboutisse à mériter cette part.
Oui.
Bon, mais je n'ai pas dit dans le monde à venir. Je vais vous corriger la traduction. Okay.
Justement, c'est ce qu'elle vient de dire. Dans le monde à venir, en parlant de la résurrection, l'âme, la résurrection, l'âme est de continuation, c'est-à-dire que l'âme puisse revenir jusqu'à ce qu'elle arrive. C'est la direction.
C'est joli, mais c'est pas dans le texte. C'est pas dans le texte. Je ne sais pas si vous avez rendu compte que le monde à venir, on ne sait pas ce que c'est. Pour le moment, on étudie la formule. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas voir les choses comme ça grossièrement. Il y a ici, et puis là-bas, c'est le paradis. Et que pour tout Israël, il y a déjà un fauteuil préparé à la synagogue du paradis. C'est pas ça. Il n'y a pas écrit Barolama. Il y a écrit Barolama. Voilà. Parler des anges, ils vont pas s'imaginer. Bon, alors je reviens au verset. Ça veut dire que en tout Israël, il y a un chélek de sa personne qui est déjà préparé pour le Olam Haba, la Olam Haba. C'est une toute autre lecture. C'est clair? Maintenant, on l'a lu en hébreu. Alors je relis. Kol Israël, yesh lahem, chélek, la Olam Haba. Et le problème, c'est de faire passer tout le reste avec, pas seulement ce chélek. Ça y est, c'est clair? Alors c'est ce chélek dont je vous parle dans l'analyse de Shema Israël. Je m'adresse à mon chélek qui est déjà Israël. Et puisqu'il est déjà Israël, il est déjà prêt pour le Olam Haba. Mais c'est un point de ma personne. Et il ne faut pas faire passer le reste après. C'est ce point de ma personne par laquelle je suis relié au clan Israël. Vous suivez ? Ça y est ? C'est clair ? Chaque individu est relié par un point de sa personne à la collectivité d'Israël, qui elle est Israël. Alors c'est sur ce point-là que je suis Israël. Sur les autres points, eh bien, chacun à son niveau, je suis un petit peu auvergnat, un petit peu... Vous avez compris ? J'espère que j'ai vexé personne. Ah, ça, c'est pas fini. Alors, qu'est-ce que nous dit cette Mishnah ? Kol Israël, yesh lahem chelek, un chelek de leur personne, la olamamba. Ça y est, c'est clair ? Vous avez compris ? Bon, après, tu me remettras ta question, je sais qu'elle n'est pas finie. Et qu'est-ce que tu veux dire,
Solana ? C'est justement, est-ce que ça veut dire que si on n'a pas fait un bas, c'est ce reste ?
Il faut revenir, oui, pour. Voilà, vous avez compris comment ça sort. Okay. Et à chaque vie, on a finalement à s'occuper d'un point de... Seulement, on ne sait pas lequel, il faut s'occuper de tous à la fois. Mais vous remarquez qu'il y a des points de l'identité déjà arrangés. Il y a des mitzvot faciles à faire, d'autres plus difficiles, et c'est très subjectif, ça dépend de chacun. Okay. Pourquoi ? Eh bien, celles qui sont faciles à faire, c'est qu'on a déjà passé l'examen avant. Celles qui sont encore difficiles, c'est ça l'examen qui a passé. Vous avez compris le problème ? C'est pourquoi, d'ailleurs, vous verrez une Mishnah du Pirkei Avot, faites attention aux mitzvot qui vous paraissent difficiles, c'est les plus faciles. Ça va ? Retenez simplement l'idée de la performance sportive. Vous avez des sportifs, là, qui sont capables de performance et de façon facile, pas seulement la performance sportive, puisqu'il y a des musiciens parmi vous, vous savez très bien qu'il y a des mains de musiciens qui peuvent réussir au piano comme si rien de rien, des symphonies compliquées. Okay.